Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire, ce dimanche, la reprise des cultes. Nous entendrons Romain Choinet, responsable de la communication du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, et le père François Glory, des missions étrangères de Paris, reviendra lui sur cette demande pressante qu'a exercée une partie de l'Église catholique auprès du gouvernement pour ouvrir les lieux de culte. Et puis, avec notre invité Robert Agenot, fondateur des éditions Cartala, nous découvrirons la pensée de John Shelby Spong, cet évêque anglican de 88 ans, pour qui la crise actuelle de l'Église s'explique par des dogmes qui ne sont plus crédibles pour l'homme de notre temps. Depuis le week-end dernier, c'est le déconfinement pour les lieux de culte. Alors que les rassemblements religieux devaient être autorisés tout début juin, le gouvernement a dû se conformer à la décision du Conseil d'État, cela au nom du respect de la liberté de culte, de lever l'interdiction des offices. Le Conseil d'État qui avait été saisi par des associations catholiques et le Parti chrétien démocrate. En revanche, les responsables des cultes juifs, musulmans et protestants n'ont pas du tout montré le même empressement et ont appelé à la plus grande prudence dans la reprise des cérémonies. Encore plus sur la réserve, les évangéliques, encore traumatisés par le rassemblement de la Porte Ouverte chrétienne à Mulhouse du 17 au 21 février dernier. 30 fidèles sur les plus de 2000 sont décédés du Covid-19 et la méga-church a été pointée du doigt par la préfète du Grand Est d'avoir été le foyer de contamination de la région. Avec nous en ligne, Romain Choinet, responsable de la communication du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF. Bonjour Romain Choinet.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors effectivement, on peut comprendre la grande prudence, la réserve du CNEF par rapport à la reprise des cultes. Vous êtes encore quand même sous le choc, deux mois et demi après, sous le choc du rassemblement à Mulhouse et puis aussi d'avoir été au début de cette crise les boucs émissaires.
Effectivement, il y a des décès qui sont à déplorer dans les communautés évangéliques et des deuils qui sont à déplorer dans ces communautés-là. Et on est encore un peu sous le choc de cette période-là. Et c'est vrai que le rôle fortuit qui a été joué par l'Église évangélique de la Porte Ouverte chrétienne à Mulhouse, et encore plus la stigmatisation qui en a découlé par des paroles de représentants de l'État, comme la préfète du Grand Est. On sait maintenant que ce n'était pas fondé, que la communauté n'y est pour rien, mais malgré tout, on reste particulièrement vigilant pour ne pas alimenter cette suspicion et cette stigmatisation.
Oui, c'est ça. Maintenant, vous avez effectivement en tête, on a tous du reste en tête, qu'un rassemblement religieux peut être un foyer de contamination. Pour autant, effectivement, c'était au tout début du Covid-19 et, comme vous le dites, ça a été fortuit.
Oui, ils ont vraiment pour rien, dans le sens où il n'y avait aucun geste barrière à respecter à cette époque-là. L'Agence régionale de la santé parlait d'un cas seulement pour toute la France, et donc on n'était pas dans une période de vigilance particulière. Maintenant, on voit ce qui s'est passé cette semaine dans une église en Allemagne où il y a plus de 100 contaminations au coronavirus. Et malgré un respect des gestes barrières, malgré un respect de la distanciation, on pense que c'est peut-être le fait d'avoir eu une période de chant et de louange sans porter de masque qui ont pu propager ce coronavirus. Ça nous appelle vraiment à beaucoup de vigilance et beaucoup de prudence.
Oui, d'autant que chez les évangéliques, effectivement, les chants, les louanges sont extrêmement présents pendant les cultes.
C'est une partie effectivement très importante de notre liturgie, notre manière de faire église. Ça représente parfois la moitié de ce qu'on appelle notre culte. C'est du chant, de la louange, on est ensemble, le partage de la scène, les moments de convivialité. Et donc, ce sont des pratiques à risque, effectivement, en termes de contamination.
Alors, comment comptez-vous poursuivre, si je puis dire, les cultes? Est-ce que vous allez très prudemment attendre des semaines pour pouvoir se retrouver? Ou bien est-ce que vous allez continuer ce que vous avez largement commencé pendant ce confinement, c'est-à-dire le culte virtuel?
C'est vrai qu'on a envie de se retrouver, on a envie de vivre ensemble cette communion fraternelle de manière physique et les pasteurs et les fidèles sont pressés de se retrouver en église. Maintenant, les consignes sont quand même assez strictes. D'une part, celle émise par le gouvernement et l'interprétation qu'on peut en faire. Et c'est quand même quelque chose qui est assez lourd à mettre en place. Beaucoup de communautés évangéliques prennent le temps de décrypter un petit peu ces consignes, ces textes de loi, de les mettre en œuvre dans leur église. C'est quelque chose qui peut prendre plusieurs semaines. Et effectivement, ce temps-là, il est nécessaire pour nous. On peut attendre, on est passé vraiment sur des outils numériques depuis plusieurs semaines. 87% des églises évangéliques ont commencé à utiliser des outils de visioconférence au début du confinement pour faire église, pour vivre leur culte le dimanche matin. Donc c'est une pratique qu'on peut poursuivre de par notre ecclésiologie, de par notre liturgie. On n'a pas de sacrement impératif. Donc on peut patienter, entre guillemets, même si on est impatient de se retrouver.
Quand vous dites on n'a pas de sacrement impératif, vous pensez à l'Eucharistie ?
Exactement, l'Eucharistie est quand même quelque chose de régulier dans l'Église catholique et qui doit se faire en présence du prêtre ou de l'évêque qui est là. Les sacrements qu'on reconnaît, donc c'est le baptême et le mariage. Les mariages sont repoussés de toute manière par l'État. Le baptême n'est que l'expression publique d'une conversion. Et donc cette expression publique peut également être reportée de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est entre guillemets plus facile pour nous d'attendre, de patienter, de remettre à plus tard certaines choses.
Est-ce que ça vous a choqué que des évêques catholiques demandent à anticiper effectivement l'ouverture des cultes qui était prévue normalement, la réouverture des cultes qui était prévue normalement début juin ? Ça vous a choqué ou bien vous l'avez compris ?
On l'a compris parce que c'est une question qu'on se posait aussi. Même si nous, pour des raisons de le rôle qu'on a pu jouer dans le début de la crise et puis l'attention qu'on a envers les plus vulnérables nous amène à de la patience, mais on est très vigilant sur le respect de la liberté de religion de la part de l'État. Et effectivement, quand l'État autorise des commerces ou autres rassemblements publics à reprendre, il n'y a pas lieu de faire patienter les cultes. Et sur cette question de liberté de religion, on comprend tout à fait et on comprend cette volonté de la part de l'Église catholique de réinterroger le gouvernement sur cette décision. Même si nous ne l'aurions pas fait, on se satisfait de voir que le Conseil d'État a retoqué un petit peu la démarche du gouvernement en insistant sur le fait que la liberté de religion est une liberté fondamentale et qu'elle consiste la liberté de se réunir.
Même en temps de crise sanitaire.
Disons que là, on est sur un principe d'équité. Une décision d'État envers les cultes peut être justifié par la crise sanitaire à condition d'être équitable entre les différentes structures de la société. Et tant que les cultes étaient confinés au même titre que l'ensemble des activités des Français, c'était tout à fait compréhensible. Maintenant, si le déconfinement est autorisé pour certaines activités commerciales, d'espace public, etc., alors on comprend qu'il y avait lieu d'interroger l'État sur ses raisons de garder les cultes confinés. Il y avait là une discrimination envers les cultes qui n'était pas forcément fondée et c'est important que le Conseil d'État ait pu s'exprimer et rectifier un petit peu les choses.
Je vous remercie Romain Chouanet. Je rappelle que vous êtes le responsable de la communication du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Merci.
Merci.
Sans s'engager dans une démarche juridique, la Conférence des évêques de France avait publiquement demandé, fin avril, la reprise des messes dans les églises pour le 11 mai, soit 3 semaines avant la date de déconfinement des cultes annoncée à un moment par le gouvernement. Cette position, défendue par le courant conservateur, voire traditionnaliste, n'a cependant pas suscité l'adhésion de tous les fidèles et même au sein du clergé. Certains clercs ont estimé cette requête inopportune. Avec nous en ligne, le père François Glory, des Missions étrangères de Paris, qui a passé 35 ans de sa vie en Amazonie. Père François Glory, bonjour.
Bonjour.
Le motif avancé donc pour la réouverture des cultes, c'était l'Eucharistie, la possibilité de recevoir la communion. Qu'en pensez-vous ?
Je crois que nous sommes extrêmement en retard par rapport à ce qui se faisait ou ce que j'ai moi vécu en Amazonie. En Amazonie, dans les communautés qui étaient extrêmement nombreuses et éloignées, que je visitais de 3 mois en 3 mois, le problème ne se posait pas, car la priorité n'était pas d'avoir l'Eucharistie tous les jours ou tous les dimanches, mais de temps en temps, qui venait couronner un cheminement, un parcours qui était fait à partir de la parole de Dieu. Et lorsqu'on a reçu cette parole, lorsqu'on l'a comprise, et à ce moment-là, eh bien, ils partagent l'Eucharistie. Or, nous mettons la charrue avant les bœufs. Et on a l'impression que si nous n'avons pas d'Eucharistie, eh bien, il n'y a plus rien. Et tout s'effondre. Or, la parole de Dieu, elle peut aller partout. Elle peut être dans toutes les maisons, elle peut être dans toutes les communautés. Elle peut être commentée par un membre de la communauté ou plusieurs qui se rassemblent. Et donc, je crois qu'on en est, depuis le Moyen-Âge, en passant par le Concile de Trente, on a renforcé le rôle et d'une certaine manière, on a polarisé sur l'Eucharistie et sur la fonction du prêtre qui célèbre un sacrifice. Avec le Concile Vatican II, on a essayé de retrouver ce sens du peuple de Dieu et de l'importance de la parole de Dieu, d'où les groupes bibliques qui se sont multipliés. Mais actuellement, on en revient à une dévotion, à une pratique préconciliaire. C'est-à-dire qu'on a créé parmi les fidèles un besoin de consommation, je dirais, entre guillemets, de l'Eucharistie, qui a perdu le sens, certainement, je pense que le Christ a voulu donner à son Eucharistie, qui est d'abord une rencontre avec lui en communauté et un partage entre frères et sœurs.
Et voilà. D'ailleurs, un moine de l'abbaye de Ligugé, le frère François Cassingena Trévedi, oui, parle effectivement de consumérisme sacramentel. Pour lui, finalement, il y a, semble-t-il, une sorte de consommation religieuse qui actuellement s'exprime. Est-ce que vous partagez son point de vue? Il a écrit cela au moment de l'Ascension, de la fête de l'Ascension.
Je le partage pleinement, j'ai lu l'article, je le signe à deux mains. Il dénonce justement toute cette déformation que l'on retrouve surtout dans le jeune clergé, qui ne sait pas faire autre chose que célébrer. Alors, on insiste sur les confessions, on insiste sur les adorations eucharistiques, on insiste sur le chapelet, on insiste sur le rassemblement eucharistique, mais est-ce que notre Église, après avoir passé cette crise mondiale, est-ce qu'on va essayer de revenir aux formes anciennes, ou est-ce que dépouillés après cette traversée du désert, on va accepter de se brancher sur les problèmes du monde où la pauvreté, la misère va exploser? Il va donc falloir être prêt pour que nos Eucharisties nous invitent et nous engagent au partage avec tous nos frères, et que ce pain de l'Eucharistie ne soit pas fait pour une petite élite ou pour un petit groupe qui serait privilégié, mais qui nous pousse justement à aller vers nos frères et à faire en sorte que notre société, au lieu de devenir une société de consommation qui détruit notre planète, ce que le pape François nous répète par la date aussi, et on retrouve cela. Donc, si on veut un changement du monde, un changement de société pour que nous ne soyons plus des consommateurs qui détruisent notre mère Terre, eh bien, il faut aussi que notre Église passe par ce processus de purification et qu'elle accepte aussi de changer ses habitudes et de ne pas faire de nos fidèles des consommateurs du religieux.
Père François Glory, vous avez passé, je le rappelais, 35 années au Brésil. Oui. Vous êtes évidemment extrêmement sensible à ce qui se passe actuellement au Brésil, à savoir cette épidémie du Covid-19 qui s'étend. Oui. Vous êtes évidemment très critique à l'égard de l'attitude du président Bolsonaro. Ce qui vous inquiète le plus, semble-t-il, c'est la situation des communautés indigènes.
Oui, voilà, on parle beaucoup du Brésil, qui est en train de devenir le pays le plus atteint avec le plus de victimes dans quelques jours, dans quelques semaines, sur le plan mondial. C'est dramatique car il n'y a aucun consensus politique entre le gouvernement et les gouverneurs et les différentes parties pour protéger la population. Mais il y a un drame dont on parle trop peu, c'est les peuples indigènes en Amazonie. Ils sont 3 millions. Or, avec ce que promeut le gouvernement d'envahir l'Amazonie, quand on sait que le ministre de l'Environnement, Salles, a demandé pendant une réunion des ministres qu'il fallait profiter de la pandémie parce que les gens étaient occupés à se protéger, donc pour faire passer des décrets et des lois qui permettent d'envahir l'Amazonie et les terres indigènes pour qu'on puisse exploiter le bois, qu'on puisse avoir des mines d'or, qu'on puisse brûler la forêt pour faire des plantations. Et on sait actuellement qu'il y a déjà certaines tribus qui n'avaient jamais eu de contact avec la population blanche sont atteintes. Or, si ce virus se répand, dans quelques mois, on aura atteint pratiquement toutes les tribus. Et est-ce qu'elles vont survivre? On sait très bien que du temps de la conquête par les Portugais ou les Espagnols, le premier motif de leur disparition a été justement les virus et les maladies qu'on leur a apportées. Or, il y a des milliers et des milliers d'Indiens qui sont morts. On est actuellement en train de revivre cela et personne n'en parle. Alors, il y a un juge, je l'ai appris hier par les informations sur Internet que j'ai du Brésil, il y a un juge qui a décrété qu'il fallait justement venir au secours de ces populations indigènes. Mais le gouvernement, au lieu de mettre les organismes d'État pour les protéger, comme l'IBAM qui est chargé du contrôle de l'exploitation du bois, ou la FUNAI qui est l'organisme qui est chargé de défendre les Indiens, il les a relevés de leurs fonctions, il a nommé un général qui est au service de Bolsonaro et qui ne respecte rien. De toute façon, les Indiens, si on peut les supprimer, c'est très bien. Donc on dira, ben voilà, les Indiens sont morts, ben ils ont été atteints du coronavirus, on regrette beaucoup, mais maintenant on exploite l'Amazonie. C'est d'un cynisme, c'est d'une cruauté énorme.
Et vous voulez, dans cette affaire, lanceur d'alerte, Père François Glory.
Oui, et donc ce qu'il faut, ce n'est pas critiquer le gouvernement parce que ça ne sert à rien, mais il faut faire pression sur nos gouvernements pour qu'ils arrêtent tous les accords commerciaux, parce qu'il n'y a que la partie économique, la partie, je dirais, bénéfice qu'ils retirent de ces échanges, qui va les faire plier. Mais si on leur fait la morale, ils vont se révolter en disant le Brésil, comme disent les Chinois, la Chine c'est à nous, et Bolsonaro dira le Brésil c'est à nous, vous n'avez pas à vous en mêler. Donc il faut couper le robinet financier. Alors à ce moment-là, ils vont revoir leur position. Il n'y a que l'argent, il n'y a que l'intérêt qui les fait pleurer.
Je vous remercie, Père François Glory. Je rappelle que vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris. Merci.
Merci.
Âgé de 88 ans, il vit aux États-Unis où il a été évêque de l'église épiscopalienne, c'est-à-dire de tradition anglicane, de 1976 à 2000. John Shelby Spong est très peu connu en France, sauf par des petits cercles de catholiques dits progressistes, comme Nous sommes aussi l'Église, la conférence des baptisés francophones ou encore les réseaux des parvis. Les éditions Cartala ont publié les grands livres de l'évêque Spong dans la collection Sens et conscience dirigée par Robert Dumont. Parmi ces livres, on retiendra Jésus pour le XXIe siècle, La résurrection, mythe ou réalité. À l'automne 2019, une journée d'études s'est tenue à Paris sur l'œuvre de Spong. Et cette journée fait aujourd'hui l'objet d'un livre, Manifeste pour un christianisme d'avenir, publié chez Cartala, dans lequel s'expriment des adeptes de Spong. Nous avons demandé à Robert Agenoux comment il avait fait la découverte de Spong.
La rencontre avec John Spong s'est faite de manière assez fortuite. C'est un de ses amis belges, flamands, qui parlait français, qui, à la retraite, nous a envoyé la traduction d'un de ses livres, Jésus pour les non-religieux, que nous avons appelé Jésus au XXIe siècle. Et ce livre est arrivé par la poste, avec une très petite correspondante de M. Rakover, c'était son traducteur. Et il a même dormi quelque temps sur une étagère, jusqu'au jour où Robert Dumont l'a lu, et on a tout de suite vu qu'il répondait à nos questions. Et ces questions, c'était justement de pouvoir relire les Écritures d'une manière moderne, et puis reparler de la foi également d'une manière compréhensible pour les gens d'aujourd'hui, quoi.
Est-ce que vous avez reçu comme un choc, en quelque sorte, lorsque la première fois vous avez découvert les défis qu'il lançait au christianisme de notre époque?
Non, ça n'a pas vraiment été un choc, parce que la collection que nous dirigions, et puis nous-mêmes, personnellement, avec Robert Dumont qui dirigeait la collection, nous avions des questions que nous ne pouvions pas résoudre et qui demandaient quelqu'un ou des leaders pour y répondre. Et Spong répondait à ces questions, parce qu'il parlait de Jésus de Nazareth d'une manière tout à fait différente du catéchisme, de ce que la théologie traditionnelle met en avant, c'est-à-dire le Christ qui est mort sur la croix pour expier nos péchés d'abord, quoi. Au contraire, c'était un Jésus historique, un Jésus dont la naissance était celle d'un être humain, pas du tout dans la conception virginale où c'est l'Esprit-Saint qui rend Marie enceinte. C'est au contraire, Jésus est né de l'union d'un homme et d'une femme. Des choses comme ça qui reposaient sur la nouvelle lecture des Écritures, sur l'exégèse moderne.
Robert Agenault, John Shelby Spong, c'est un homme qui a d'abord été prêtre, puis ensuite évêque, et qui a manifestement vécu un très grand cheminement, puisqu'il remet en cause les dogmes de l'Église. Et en somme, il s'interroge et dit finalement, aujourd'hui, le problème de la foi, pour ceux qui pourraient être tentés par le christianisme, mais qui n'y adhèrent pas, ça n'est pas tant aujourd'hui, enfin le problème de l'Église, ça n'est pas tant aujourd'hui une question, j'allais dire, de structure, une question hiérarchique, voire cléricale, c'est beaucoup plus profond. La crise qu'il souligne est une crise beaucoup plus profonde, puisqu'en réalité, elle remet en cause tout le dogme.
C'est exactement ça. L'évêque Spong, il faut peut-être rappeler qui il était. Il a 88 ans cette année. Il est né dans le sud des États-Unis, qui est une région fondamentaliste. Mais par son éducation, par son engagement, par son intelligence, il a inversé cette tendance initiale et est devenu quelqu'un d'instruit et qui a affronté ces questions qu'il a rencontrées très vite quand il est sorti de sa formation de prêtre anglican, parce que c'est un évêque anglican. Et donc, quand il a eu sa première période de prêtre, on dit prêtre pour les anglicans, il a rencontré très vite une population de ses fidèles, quoi, qui soit était endormie dans la doctrine traditionnelle, soit quittait les églises, et notamment les jeunes, mais pas uniquement les jeunes, parce qu'il avait une paroisse près d'une université où les étudiants venaient à sa messe le dimanche, quoi. Et très tôt, il s'est rendu compte que ça ne passait pas, et il a commencé à réfléchir sur comment donner une nouvelle vision du christianisme. Et donc, cela, il l'a fait durant une vingtaine d'années sur la côte est des États-Unis. Et en 1976, il a été élu évêque. Son élection a été difficile, puisqu'il était déjà connu par trois livres et par ses positions comme étant quelqu'un qui mettait en cause la doctrine traditionnelle, les dogmes, la morale aussi. Et il a cependant été élu. Et le fait qu'il passe évêque lui a donné une notoriété qui lui a permis de diffuser davantage ses idées sur Dieu, sur Jésus, sur la relecture de la Bible.
Alors aujourd'hui, quand on parle de réforme, par exemple le pape François, on va parler d'un excès de cléricalisme, c'est-à-dire la trop grande place du prêtre qu'il faut effectivement revoir. On va parler de la crise, bien sûr, des abus sexuels dans l'Église. Voilà, c'est ce genre de crise dont on parle, hein, aussi du manque de prêtres, etc. Lui, il va beaucoup, beaucoup plus loin. Pour lui, ça n'est pas ça la question. La question, c'est que notre époque, au XXIe siècle, travaillée par la science, il dit très clairement, voilà, Freud est passé par là aussi, enfin, tout ce que les sciences ont pu apporter dans différents domaines, avec tout cela, avec tout cet apport, l'homme du XXIe siècle ne peut plus croire à ce que racontent les évangiles.
Oui, tout à fait. Dans sa réponse, Spong bénéficie de deux grandes qualités. La première qualité, c'est quelqu'un qui a lu toute l'exégèse moderne, c'est-à-dire depuis deux siècles, qui relie les Écritures dans l'analyse historico-critique, qui remet les textes dans l'histoire, qui traite des genres littéraires. La Bible juive et celle des chrétiens a été écrite dans une époque pré-scientifique, dans une époque patriarcale. Donc on ne peut pas prendre à la lettre la lecture soit de l'Ancien Testament, soit du Nouveau Testament, comme on dit. Sinon, on commet des fautes extraordinaires, quoi, des erreurs totales. Et donc Spong a lu en anglais tout ce qui est paru chez les exégètes anglais, mais également européens, parce que beaucoup, les Allemands, les Hollandais, les Français aussi, ont publié, des Israéliens, des Italiens, ont publié en anglais. Donc il a une grande culture là-dessus. Lui-même lit la Bible en hébreu et en grec, quoi. Donc il a une grande culture que certains exégètes français, quand on a publié Spong, ont mis en doute. Certes, c'est un grand vulgarisateur. Lui-même n'est pas un exégète professionnel, mais ça lui a permis, par exemple, je donne l'exemple de la naissance de Jésus. La plupart des exégètes actuellement, catholiques, protestants et autres, considèrent les évangiles de Matthieu et Luc, qui sont les deux évangélistes, qui parlent des récits de naissance et d'enfance de Jésus, à partir des années 80 seulement du 1er siècle, 50 ans après la mort de Jésus. Dans saint Paul, qui écrit de 55 à 60, dans Marc, qui fait son premier évangile en 70, il n'y a pas de récit de l'enfance. La vie de Jésus commence quand il fait sa première apparition publique, quoi. Et Paul ne dit qu'une seule chose de Jésus, il est né d'une femme. Et donc, cette naissance de Jésus, qui a été écrite tardivement pour rehausser le destin de Jésus, aussi sous forme de Midrash, pour le montrer qu'il est de la lignée de David, qu'il est le Messie attendu. Le Midrash, c'est reprendre des textes de l'Ancien Testament pour comprendre une nouveauté, comprendre ce qui se fait, et lire la Bible avec des yeux juifs. Et donc, le problème de la naissance de Jésus dans l'Église catholique n'est pas du tout révélé, je dirais, à la plupart des gens. On continue de faire une fête de Noël sympathique qu'il faut préserver, mais en parlant de Jésus né à Bethléem avec des mages, des bergers qui viennent le chanter autour de lui, alors que Jésus est né d'un homme et d'une femme. Nous ne savons pas grand-chose de cette naissance de Jésus. Rien pratiquement, sauf que c'est sa naissance humaine. Et donc cette vision donne à Jésus une réalité historique, une véritable réalité historique, et surtout permet de répondre d'une manière moderne quoi, à quelqu'un qui n'est pas né de Dieu. Dieu ne rentre pas dans la vie d'une femme pour lui faciliter la naissance d'un enfant. Donc c'est quelque chose qui n'est plus croyable.
Alors là, Robert Agenot, vous soulignez effectivement le côté scientifique de l'exégète qu'est John Shelby Spong. Il y a aussi le versant scientifique, scientifique pur. C'est quelqu'un qui a largement étudié, par exemple, Darwin ou l'astrophysique.
Oui, il a intégré très vite les connaissances scientifiques modernes, ce qu'on peut reprocher à l'Église catholique qui a tarder encore aujourd'hui à assumer toutes les conséquences de l'astrophysique sur la représentation de Dieu qui n'est plus au ciel. Il est où Dieu? La science l'a chassé du ciel. Il est très au courant également, comme vous disiez, de la clé de compréhension que Darwin a apportée sous le terme de l'évolution. Et là-dessus, il insiste beaucoup parce que qu'est-ce que l'évolution? C'est montrer que l'homme est issu d'une longue apparition de la vie minérale d'abord, ensuite animale, et que dans l'Homo sapiens qui est né il y a 300 000 ans, à peu près autour de 300 000 ans avant Jésus-Christ, et l'aboutissement d'une longue lignée des hominidés, enfin dans l'arborescence de la vie, c'est l'être qui fait le pas de la réflexion, le pas de la conscience. Et cet homme-là n'est pas né déchu comme le déclarera le péché originel, mais c'est un être inachevé, un être incomplet qui va se perfectionner, s'humaniser par l'histoire, par son évolution d'être humain, quoi. Or, dans l'Église, cela télescope complètement ce qu'on appelle justement le péché originel, que une lecture littérale de la Bible, qui a souvent été faite et qui est toujours faite actuellement dans les catéchismes, dit que l'homme ou le jeune ou l'enfant qui naît avec le péché originel dû à cette fameuse faute d'Adam et Ève, et que le baptême est fait pour effacer cette faute, et que le Christ lui-même, Jésus-Christ, le Christ lui-même est venu sur la terre pour expier cette faute originelle, d'où une théologie de l'expiation ou de la compréhension de Jésus. Or, si on admet l'évolution comme clé de la compréhension de la terre, de l'évolution de la terre, et qu'on la rajoute à la naissance de Jésus, c'est quelque chose qui ne tient pas, quoi. Il ne tient pas, et il faut se demander au contraire, qu'est-ce que le message de Jésus peut apporter ou apporte réellement par rapport à l'histoire humaine.
Donc, refus chez Spong de l'expiation, ce Christ qui meurt sur la croix, c'est quand même l'expiation absolue. Refus aussi de la résurrection, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « Résurrection, mythe ou réalité hein, ». Oui. Ça fait partie de ses grands livres. Donc, un évêque qui remet en cause la résurrection, si on se souvient que Paul disait que si on ne croit pas en la résurrection, eh bien, vaine est notre foi. Hein. Alors, un évêque, effectivement, qui avance ça, ses détracteurs vont dire, mais qu'est-ce qu'il reste chez lui du christianisme?
Pour répondre à cette question, il faut revenir à cette nouvelle vision de Jésus que Spong met en valeur. Jésus est d'abord un humain. Et Jésus a eu un comportement non religieux en ce sens que dans sa vie publique, Il a été contre la loi dans ce qu'elle a de rigide, de formel. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il a lutté contre l'exploitation du temple. Il a rencontré des gens que la loi juive interdisait de rencontrer, comme des femmes de mauvaise vie, ou bien la Samaritaine, ou des publicains qui travaillaient dans la finance. Et Jésus a payé de sa vie cette liberté.
Oui, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'était pas un comportement non religieux. Il s'inscrivait en faux par rapport à des excès de la religion de l'époque.
On peut dire ça, qu'il s'inscrivait dans cette direction. Mais ceci dit, son message sur Dieu va changer aussi. Son Dieu à lui, c'est quelqu'un qui n'intervient pas dans la vie humaine, sauf si les miracles laissent entendre. Mais les miracles, ce sont aussi des traductions tardives pour élever son histoire à lui. Et son message sur la représentation de Dieu, c'est un Dieu qui chemine avec les hommes, dont le critère principal est si vous pratiquez la justice, si vous aimez les autres, si vous êtes ouvert à, si vous dépassez les frontières tribales, les frontières ethniques, les frontières de préjugés, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la voie de Dieu. Et Jésus a fait ce chemin et il l'a payé de sa vie à la fin parce qu'il dérangeait trop de monde. Donc sa mort n'est pas une mort d'expiation, c'est une mort de quelqu'un qui, comme on l'a vu dans l'histoire humaine postérieure, est exécuté pour avoir ouvert des frontières, ouvert des portes et qui ont été refusées par les dirigeants de l'époque.
Mais alors que reste-t-il, Robert Agenault, du Dieu du christianisme tel que l'évêque Spong a pu l'apprendre hein, quand il était jeune homme? Que reste-t-il de ce Dieu? Que reste-t-il de Jésus? Et c'est une sortie complète du christianisme ou c'est un renouvellement du christianisme?
Alors pour la question de Dieu, Jésus de Nazareth nous apporte les clés pour une nouvelle représentation de Dieu. Spong, par exemple, part en guerre contre ce qu'il appelle le Dieu théiste, le Dieu qui est extérieur au monde, qui le juge, qui intervient, qu'on supplie pour la paix, pour la guérison. Et ce Dieu-là ne tient pas avec les nouvelles connaissances scientifiques depuis Galilée, depuis Copernic. Ce Dieu a été chassé de la voûte céleste où on disait « Notre Père qui est aux cieux ». Donc ça renvoie d'abord à une responsabilité de l'homme, à une laïcité de l'homme. Et ce Dieu doit être trouvé d'une autre manière. J'évoquais tout à l'heure Jésus qui a révélé dans le langage de l'époque, qui est un langage pré-scientifique, un langage avant toutes ses découvertes, Dieu pour lui est quelqu'un qui chemine avec les hommes, qui marche avec les hommes, comme dans la Bible juive d'ailleurs, hein, où Moïse, Abraham sont accompagnés par Dieu, et qui a l'aspect du vent, l'aspect du souffle.
De l'énergie.
De l'énergie, de l'énergie, de la source de la vie, de la source de l'amour. Et aujourd'hui, si nous voulons retrouver Dieu, c'est par l'homme lui-même, dans l'homme lui-même. Quelqu'un, un grand intellectuel du XXe siècle, comme Marcel Legault, a beaucoup écrit là-dessus. C'est par une sorte d'intériorité, de vie intérieure qui, de temps en temps, donne existentiellement le sens de la transcendance. C'est-à-dire que si on pratique la justice pour les autres, si on est ouvert aux autres, si on s'engage, si on a une vie honnête et authentique, il y a quelque chose en soi-même qui peut donner le sentiment qu'on n'est pas seul, qu'on dépend d'une source. Mais cela est très difficile à acquérir. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui n'est pas du tout intervenant dans l'histoire. Il n'intervient pas, donc c'est une réalité innommable, comme disaient déjà les Juifs, insaisissable, indicible, quoi. Mais ça ajoute quelque chose, la foi ajoute quelque chose au sens de la vie humaine et à l'avenir de la vie humaine.
Robert Agenault, dans le livre « Manifeste pour un christianisme d'avenir », qui reprend donc cette journée d'études hein, d'octobre 2019 sur l'esprit de l'évêque Spong, il y a donc la contribution hein, du pasteur Bourquenet, donc, qui est un pasteur de l'aile libérale protestante. Alors, donc, ce pasteur hein, défend la théologie du process, qui se rapproche, on peut le supposer, des idées de l'évêque Spong. Il dit finalement, dans cette perspective de la création, telle que Spong l'envisage, eh bien Dieu n'est pas le céleste lointain, l'être humain, lui, une vague marionnette soumise au marionnettiste, au grand marionnettiste. Au contraire, l'être humain est un partenaire de Dieu.
Spong lui-même connaît bien la théologie du process, puisqu'elle est née dans les années 1920 à peu près. Et cette conception rejoint la représentation d'un Dieu qui n'est pas théiste, mais qui est au sein de l'histoire humaine. Mais d'une manière, on parle comme des humains. On parle comme des humains, on ne peut pas s'exprimer autrement, dit souvent Spong. Et ce sont des images comme quelqu'un qui voyage avec, qui est apporteur d'énergie, mais qui n'est pas du tout un manipulateur ou quelqu'un qui intervient de manière directive dans la vie des humains. Au contraire, les humains ont la vocation de la responsabilité, de la liberté.
Un Dieu qui n'est pas une personne, Jésus qui ne ressuscite pas, il n'y a pas de miracle. Qu'est-ce qu'il reste, Robert Agenot, du christianisme si on lit Spong ?
Alors, il reste le noyau central qui sont les évangiles, qui sont les écrits de Paul et les actes des apôtres. Donc, toutes ces évangiles doivent être relus avec une nouvelle méthode, la méthode historico-critique et la méthode du Midrash juif pour comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre au niveau littéral. Ce qu'il en reste, c'est une formidable philosophie humaine du respect des autres, de la fraternité, du dépassement des tribus ou des divisions de l'homme, dont un des prototypes, parce que nous soyons pluralistes par rapport aux autres philosophies dans le monde, dont un des prototypes est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth qui a lié ça aussi à une nouvelle représentation de Dieu, quoi. Et sa résurrection n'est pas à comprendre d'une manière physique ou physiologique, comme on l'a dit. Le récit des trois jours des tombeaux, toujours, ce sont des choses qui sont écrites à partir du Midrash juif. Les premiers temps de la transmission de Jésus s'est faite dans les synagogues, où la secte chrétienne ou le courant chrétien interprétait Jésus par rapport aux Écritures. La résurrection, c'est, il faut le comprendre comme le souvenir fulgurant qu'a laissé Jésus auprès de ses disciples et de gens craintifs, de gens qui étaient déprimés par sa mort. Ils sont devenus des gens nouveaux, des gens qui ont dit « il faut transmettre ce message ». C'est ça la résurrection. Le Christ continue de vivre, il est ressuscité dans l'action des hommes, dans l'action des chrétiens. Simplement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que très vite, à la fin du 1er siècle, le christianisme bascule chez les Grecs, qui a une autre philosophie et qui va embrouiller beaucoup ce qu'est notre situation aujourd'hui. Et les grands conciles du 4e siècle qui vont proclamer le dogme de la Trinité, le dogme de Christ Dieu, sont une interprétation de l'époque.
Robert Agenot, pour Spong, en fait, nous fonctionnons sur le credo de Nicée, et pour Spong, on ne peut plus fonctionner sur un credo qui remonte au 4e siècle.
C'est ça. Le credo de Nicée, qui a lieu en 325, représente une traduction grecque de la réception de Jésus de Nazareth. Sur la base du dualisme grec homme, corps, esprit, homme et Dieu, Jésus est privilégié comme un Dieu. Il sera nommé le Fils de Dieu, le troisième personne de la Trinité. Il y aura des controverses à l'époque. Certaines, comme les Ariens, diront « Jésus est proche de Dieu, mais ce n'est pas un Dieu lui-même ». Et cette conception, aujourd'hui, est abandonnée, parce que Dieu ne peut pas s'incarner dans un homme comme Jésus, et Jésus a une trajectoire historique qu'il faut lui laisser. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu, simplement il est proche de Dieu. Il a révélé un certain visage de Dieu qu'il faut continuer à retravailler, mais qui n'est pas de l'hypostasier comme Dieu lui-même, quoi. Ça veut dire le personnifier comme Dieu lui-même.
Les détracteurs de Spong, qui quand même est très peu connu, il faut quand même le dire, en France, extrêmement peu connu, mais enfin ces détracteurs, par exemple aux États-Unis, disent « mais c'est une déconstruction absolue du christianisme ». Alors je vous pose la même question, qu'est-ce qu'il reste du christianisme si on adhère à Spong ?
Alors Spong lui-même déclare très clairement que la crise actuelle ou le renouveau du sens du christianisme est quelque chose de plus profond et de plus radical que la réforme protestante, que la séparation anglicane et que bien d'autres crises, parce qu'elle suppose une nouvelle compréhension de Dieu et de Jésus. Et donc, pour l'instant, c'est pour notre génération, Spong, comme vous le disiez, a plus de 80 ans, il rejoint d'autres théologiens comme Joseph Moing, le christianisme doit être mis à plat, il doit être repensé complètement. Et ce travail, dans l'équipe que nous constituons avec Jacques Musset, Robert Dumont et Serge Couderc, et puis bien d'autres aujourd'hui, dans la journée du 5 octobre que nous avons fait avec 140 personnes en octobre, c'était ces questions-là que nous avons abordées. Donc c'est un nouveau chemin, il n'y a pas de solution claire, mais simplement quand on parle de ça à des croyants en exil, c'est-à-dire des croyants qui ont plus ou moins quitté l'Église, qui forment une sorte de population en dehors de l'Église, c'est un chemin de libération, un chemin d'ouverture. Simplement, ça pose la question pour les jeunes également. Les jeunes n'ont pas eu cette transmission. Qu'est-ce qui va en rester ? Simplement, le fait de vivre ce nouveau christianisme comme une philosophie de l'existence, une philosophie théologie de l'existence, peut redonner du goût à beaucoup de gens dans les temps qui approchent, c'est-à-dire un temps mondialisé, un temps où il y a beaucoup de problèmes de crise et où les gens cherchent un sens. Le christianisme en est un parmi d'autres et il peut répondre, mais si le christianisme ne change pas, il mourra comme dit Spong.
En fait, c'est l'esprit du christianisme qui reste là. L'esprit du christianisme, bien.
Le titre qu'a donné quelqu'un, c'est l'esprit du christianisme que Joseph Moing a repris à Hegel, d'ailleurs, qui avait écrit dans sa jeunesse l'esprit du christianisme. C'est l'esprit du christianisme qu'il faut reprendre.
Comment expliquer, Robert Agenot, que ce soit l'évêque Spong, 88 ans, mais aussi des gens comme vous, les éditions Cartala, vous avez plus de 80 ans, Robert Agenot, ceux qui ont participé à cette journée spéciale sur Spong sont aussi des octogénaires. Bon, comment expliquer que ce soit aujourd'hui des personnes d'un certain âge qui défendent une voie d'avenir, enfin ce qu'elles considèrent être une voie d'avenir du christianisme, alors qu'aujourd'hui, ce qui marche, ce qui semble marcher au sein du catholicisme, par exemple, eh bien, ce sont plutôt, effectivement, des jeunes qui vont entrer dans des séminaires tradis. Alors, comment expliquer cela ?
Je crois que c'est un détournement de tout ce qui avait été inversé au XXe siècle, et donc qui avait représenté une étape au Concile Vatican II. Il faut se rappeler les controverses modernistes du début du XXe siècle, où un certain nombre de chercheurs, historiens, scientifiques, exégètes, prêtres, théologiens, ont, sur la base du XIXe siècle, qui était un siècle d'histoire, de science, un siècle d'industrie, un siècle de technique, avaient vivement conscience de ce décalage de la foi catholique, même de la foi chrétienne, puisque les protestants ont fait le même travail. Et qui ont créé un mouvement qu'on a appelé moderniste, et qui consistait à dire il faut changer les dogmes, il faut intégrer toutes les connaissances modernes pour répondre à l'homme d'aujourd'hui, éduqué, qui connaît un peu la science, et ça n'a fait que s'accentuer par l'éducation dans le XXe siècle. Et cette crise a été violemment condamnée. Cette crise du moderniste a été condamnée par le pape Pie X d'une manière qui a excommunié, retiré les postes et contraint à la marginalité beaucoup de théologiens, beaucoup de chercheurs comme Édouard Leroy, comme Loisy, comme Bergson, etc. Oui, et donc cette crise pèsera sur toute la formation, les séminaires seront sous contrôle, les prêtres, les évêques devront prononcer un serment antimoderniste qui, justement, était fidèle à ses positions antimodernistes, quoi. Et les évêques aujourd'hui, d'ailleurs, les évêques aujourd'hui encore et les recteurs d'institutions catholiques, les instituts catholiques, sont soumis au serment antimoderniste. Il avait été, dans un premier temps, supprimé par Paul VI, mais il a été rétabli par Jean-Paul II. Et donc, on ne connaît pas toute cette histoire, mais qui devrait être plus explicitée. Et donc, des gens comme Teilhard de Chardin, comme Michel de Certeau, comme Marcel Legault, qui sont des grands intellectuels catholiques du XXe siècle, qui ont abordé ce niveau de la crise, c'est-à-dire le niveau des dogmes, ont répété plusieurs fois dans leur vie la crise du moderniste a été une catastrophe intellectuelle gérée par l'Église catholique. Donc aujourd'hui, on ne supprime pas une question, comme on dit, elle reste toujours. Et donc nous, parce qu'on est plus âgés sans doute, parce qu'on a traversé cette période, il s'est trouvé que par choix, par statut, par aventure, on a fait des choix de revenir à ces questions, parce qu'on les a expérimentées nous-mêmes, parce qu'on en a vécu d'expérience, et donc on reprend une vieille histoire, en fait. Et donc des leaders comme Spong ont eu le même itinéraire, sauf que lui l'a résolu très vite dans sa vie, et dans le cadre d'une église anglicane qui est un peu plus libérale, sur le plan de la capacité de s'exprimer et de penser. Et donc aujourd'hui, c'est un préalable à tout renouveau de l'esprit du christianisme, de faire ce travail de déconstruction et de chercher, dans une sorte de nouvelle construction provisoire et toujours ouverte, ce qu'est vraiment l'esprit du christianisme. Et Spong a dit à plusieurs reprises que ce qui nous attend comme crise est bien plus important que la réforme protestante ou que les grandes crises de réforme qu'on a eues dans l'histoire.
Si on suit la pensée donc de Spong, hein, de l'évêque Spong, eh bien, une question quand même, que reste-t-il du culte ? Où passe le culte ?
Je crois que tout est inventé de ce côté-là aussi. Le sacerdoce actuel, les prêtres actuels sont revenus à des prêtres du culte, à des prêtres de l'Ancien Testament. Les chrétiens que nous représentons, octogénaires comme vous dites, on essaye de rassembler les différents courants. Enfin, c'est une aspiration pour devenir un peu plus visible dans un pays comme la France, où les médias effectivement parlent surtout du culte dans la crise récente, surtout de l'Église catholique officielle, mais pas du tout d'alternative. Spong, par exemple, a été boycotté effectivement par les grands médias et par les journaux, y compris les journaux catholiques, quoi. Et donc le culte, c'est un culte en esprit et en vérité, comme il est dit dans les évangiles d'ailleurs, c'est-à-dire un culte où les gens peuvent se rassembler, il faut se rassembler, mais pas d'une manière cultuelle, d'une manière où on échange, d'une manière où on peut faire la fête, où on peut prier. Prier, ce n'est pas supplier le Dieu théiste, c'est au contraire, lui, quand on a la foi, lui exposer ce qu'on vit, lui exposer les autres, lui exposer la marche du monde. Mais il n'interviendra pas, mais simplement ça donne une dimension mystique, une dimension transcendantale à la vie. Et donc, on ne sait pas très bien comment tout ça va fonctionner dans l'avenir. Et en tout cas, il faut inventer ces nouvelles réunions, ces nouvelles concertations, pour le dire, parce que ça ne concerne pas uniquement l'Europe. Hein. Cela concerne également le continent africain, qui
n'a pas du tout la vision de Spong de Dieu.
Qui a reçu un christianisme honnêtement des missionnaires de l'époque, qui était de la première moitié du XXe siècle, et qui est un christianisme très traditionnel, basé sur l'expiation, sur le Dieu crédible. Donc les chrétiens africains ont à repenser profondément également leur héritage. Alors Spong n'a pas du tout pénétré pour l'instant en Afrique, dans le continent africain de langue française. Mais ça viendra, parce que je me rappelle d'un livre que nous avons publié à Cartala il y a 20 ans, qui s'appelait « Dieu peut-il mourir en Afrique ?» d'un jeune dominicain camerounais qui malheureusement est décédé aujourd'hui. « Dieu peut-il mourir en Afrique ?» point d'interrogation. Et ce livre rencontre de l'écho, parce que toutes les sociétés évoluent de la même manière. L'éducation, la responsabilité, la liberté fait qu'on raisonnera partout, chacun à sa manière, chacun dans sa culture, mais qu'on ne voudra plus d'un dieu théiste, d'une doctrine qui n'a plus de sens pour aujourd'hui.
Robert Agenot, à propos du livre sur John Shelby Spong, Pour un christianisme d'avenir, publié chez Cartala. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Jérémy Besset, Laurent Salerno vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
La marche du monde.